Bonjour à toutes et à tous. On est tellement heureux d'être là ce matin pour vous apporter un culte, mais pour que vous aussi, vous puissiez y participer. Alors j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez fini le petit déjeuner peut-être, qu'il y a les enfants aussi avec vous. Vraiment, on veut tous vous saluer ce matin et vous dire que venez avec nous dans la louange et l'adoration ce matin. Et Seigneur, nous voulons simplement ce matin venir devant toi, t'apporter notre louange et notre adoration, te dire Père éternel, tu es le bienvenu dans nos maisons, dans notre chambre, là où nous sommes et dans nos cœurs aussi. Père éternel, merci parce que je sais que tu es présent parmi nous. Merci parce que tu nous permets d'être connectés ce matin ensemble. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, par la lame je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Jusqu'à son retour, mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence.
Yahweh, Yahweh, Yahweh. éclaire nos pas. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir t'adorer, te louer, te magnifier, dire combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es fidèle. Seigneur, nous voulons venir dans ta présence. Tu es l'objet de notre adoration. Reçois cette adoration. Tu es digne.
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter. je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
Seigneur, nous voulons habiter près de toi. Nous voulons être dans ta présence. Et ce matin, Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi. Vers toi, Seigneur, nous voulons élever une adoration. Nous voulons élever une louange. Parce que tu es digne, tu es très grand. Tu es excellent. Seigneur, mon cœur brûle pour te dire je t'aime. Nous élevons nos voix, élevons ensemble nos voix vers toi, Seigneur.
Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi, reçois.
Seigneur.
Et toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je t'adorais. Toi seul est digne. présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes paroles, mon sauveur, toi seul es seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi seul et digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Est-ce qu'on peut élever son nom, dire combien il est grand, combien il est bon, combien il est fidèle, combien il est puissant, combien il est magnifique, sa grâce dure à toujours, son amour dure à jamais. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, reçois l'adoration, reçois l'adoration. Reçois l'adoration, Jésus. Ce nom est si magnifique, ce nom est si merveilleux. Reçois l'adoration. Vous qui êtes connectés, élevez une louange, une adoration. Parce qu'il est bon, parce qu'il est puissant, parce qu'il vous aime. Reçois, Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es excellent, tu vis à jamais, tu es grand Seigneur, tu es beau Seigneur, nous t'adorerons encore et encore, tu es digne Seigneur, reçois la gloire et la louange, l'adoration t'appartienne Seigneur. Dans cette même attitude, Seigneur, nous voulons te dire, sonde-moi, sonde mon cœur, Seigneur, regarde au tréfonds de mon cœur, montre-moi la voie, Seigneur. Je refuse de ne pas regarder en moi ce qui ne va pas. Seigneur, c'est avec un cœur repentant que je te dis, sonde-moi.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité.
Ensemble, sonde-moi.
Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées, regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si
Amen, c'est tellement bon d'avoir des instants comme ça et conduis-moi. Et ma plus grande crainte, je ne sais pas si c'est la vôtre, c'est d'être à côté de la plaque, c'est d'être à côté du plan de Dieu. C'est de ne pas faire sa volonté et c'est ma plus grande crainte. J'espère que c'est la vôtre ce matin aussi. C'est tellement bon, j'espère que vous avez pu rentrer dans la louange, dans cette adoration et simplement dire merci Seigneur. Alors l'équipe de louange va rester là pendant un petit temps d'annonce et on voudrait vraiment continuer ces temps où on peut s'approcher de Dieu, où on peut se connecter. Alors ce qu'on vous propose, c'est un jeûne et prière via Zoom. C'est vrai que c'est un peu particulier, certaines personnes me disent mais j'ai du mal à me retrouver derrière un écran, prier, enfin c'est tellement bon de se retrouver connectés ensemble pour louer, pour adorer notre Dieu, pour lui apporter nos requêtes. Alors on vous propose le mardi 1er, le mercredi 2, le jeudi 3 et le vendredi 4 décembre, un jeûne et prière via Zoom. Vous aurez toutes les informations sur le site de l'EPI où vous pouvez y aller pour revoir bien sûr des prédications, pour nous soutenir, pour des dons. N'oubliez pas, pour ceux qui sont connectés sur YouTube, de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr nous contacter par mail à l'adresse contact@epi-strasbourg.eu ou si vous préférez par téléphone au 06 28 13 58 51. Surtout n'hésitez pas, si vous avez un besoin, si vous voulez qu'on prie avec vous ou même si vous voulez nous faire un petit coucou, ça sera les bienvenus. On est toujours content de vous avoir au téléphone. N'oubliez pas aussi, tous les jeudis soirs, on se retrouve connectés ensemble à 19h pour notre temps de prière et de partage ensemble tous les jeudis soirs à 19h. Donc là aussi, toutes les informations sont sur le site. Et je veux vraiment qu'on continue dans ce temps de louange. Et l'équipe de louange va reprendre ce chant qui dit « Sonde-moi, Seigneur ». Vraiment qu'on ait l'attitude de dire « Ben ouais, Seigneur, je t'ouvre mon cœur ce matin. » Il y a des choses qui sont pas très jolies, j'avoue, mais c'est pas grave, je veux t'ouvrir mon cœur. Je veux que tu mettes de la lumière là où il y a de l'ombre. Et que vraiment, on puisse préparer nos cœurs au message qui va nous être apporté ce matin. Parce que c'est pas un message de plus, mais c'est un message que Dieu a pour toi ce matin. Alors vraiment qu'on puisse encore, au travers de ce chant, ouvrir nos cœurs pour entendre le message de la bonne nouvelle.
Sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées, sonde-moi encore. Sonde-moi, ô Dieu.
Ce matin. Seigneur, alors qu'on est ensemble et qu'on vient de dire, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. Tu dis que la parole est vivante, plus efficace qu'une épée à double tranchant, capable de séparer jointure et moelle, âme et esprit. Seigneur, je te prie ce matin qu'à travers le message, à travers la parole de Dieu, Seigneur, sois pas moi qui parle, mais que ton esprit vienne percuter les vies et les cœurs. Je te prie pour chaque personne qui est derrière son écran. Parce que tu as un message pour lui ce matin. Je te prie pour celui qui est là, fatigué, lassé, dans l'inquiétude, dans le doute, afin que ta parole soit comme un baume sur son cœur, un encouragement, une parole de bénédiction. Je te prie pour celui qui est malade, ceux qui sont peut-être sur leur lit d'hôpitaux, ceux qui sont là bloqués, afin que, Seigneur, tu viennes les visiter là où ils sont. Je te prie pour nos personnes âgées qui n'ont pas forcément accès à toutes ces technologies, à tout ce qu'on peut vivre, que tu puisses les bénir dès maintenant. Je te prie pour nos enfants, pour nos ados et nos jeunes, afin que dans ces temps de confinement, ils puissent vivre simplement une connexion particulière avec toi. Et Seigneur, je te prie pour l'église de l'Épi, afin que nous puissions progresser vers toi, ensemble te connaître davantage. Tu connais les défis qui sont devant nous, mais nous voulons que tu sois le Seigneur des Seigneurs, celui qui règne dans chaque domaine de notre vie. Seigneur, on n'a pas peur de dire on a besoin de toi ce matin, car sans toi on ne peut rien faire. Viens nous visiter ce matin. Merci Père éternel, à toi la gloire Jésus. Amen. Amen. Merci à l'équipe de louange d'avoir été, de vous être laissé guider et diriger dans les chants. Je crois que Dieu a un message pour chacun d'entre nous ce matin. Et c'est vraiment avec beaucoup d'honneur que je suis avec vous. Alors je vais monter un peu plus vite parce que sinon je vais être un peu trop bas. J'espère que vous allez bien. Et je vous invite déjà, si déjà vous avez passé un bon moment dans la louange, à mettre un petit mot dans le chat et nous dire « Ouais, ça m'a fait du bien, je suis encouragé » ou juste un « Amen » ou voilà, juste mettre un petit mot et nous dire que vous êtes là, ça nous encourage, ça nous bénit. Puis ça encourage ceux qui regardent aussi le chat, ceux qui discutent aussi avec vous, qui échangent. Et c'est une telle bénédiction de pouvoir, malgré les circonstances, être ensemble. On est confinés, mais on n'est pas déconnectés. Et on est ensemble ce matin et c'est une telle joie. J'espère que vous allez bien. Voilà. Moi, c'était ma question ce matin. Est-ce que vous allez bien? Donc voilà, comme ça, c'est posé. Et j'aimerais partager avec vous un thème que Dieu a déposé sur mon cœur depuis quelques temps maintenant et qui impacte particulièrement ma vie en ce moment, dans cette période de confinement, dans cette période d'arrêt, dans cette période particulièrement incompréhensible. Et ce thème et le titre de mon message est celui-ci, « Maître ou Seigneur ?» Maître ou Seigneur? Je crois que c'est une clé essentielle pour notre vie de disciple, de savoir comment nous considérons Jésus. Est-ce que nous le considérons comme un maître ou comme un seigneur? Est-ce que nous le considérons comme un rabbi, et on va en parler ensemble, ou comme un seigneur, celui qui est au-dessus de tout, qui règne malgré tout? Dans chaque domaine de ta vie, comment tu considères Jésus? Dans tes inquiétudes actuellement, dans peut-être le doute, la peur, comment tu considères Jésus? Dans les blessures que tu as vécues, comment tu considères Jésus? Jésus est-il le maître ou le seigneur de ta vie? On va essayer de comprendre ensemble ce que je veux dire par là. Et j'aimerais vous amener à lire avec moi Matthieu 26, 20. Et vous encourager également à réécouter le message que Yolande Schwab nous a prêché le 27 septembre, qui nous parle de remettre Dieu au bon endroit, la mort à soi-même, Kézako. Je vous invite à le réécouter aussi parce que ça va dans le sens de ce que je vais partager ce matin. Et on va parler ensemble de finalement qui domine sur notre vie, qui trône sur notre vie. Et je voudrais qu'on se pose la bonne question, comme on l'a entendu dans ce chant, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, viens m'éprouver pour savoir c'est qui a la priorité dans mon cœur. Matthieu 26, 20 nous dit, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Je remets le contexte avant de continuer, c'est Jésus, et il est à quelques heures maintenant de sa mort, de sa crucifixion, et il se retrouve pour le dernier repas avec ses disciples. Et c'est le texte qui nous parle du moment où Judas va trahir Jésus, qui va être l'élément déclencheur qui va amener Judas à aller rencontrer les pharisiens et puis à aller proposer de trahir Jésus. Et on se trouve donc en Matthieu 26, 20, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Et pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis, en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi ?» Seigneur. Il répondit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, est-ce moi, maître? Jésus lui répondit, tu le dis. Vous avez déjà tous lu ce texte-là, hein? Ouais. Ok. Quelle est la différence entre le disciple et Judas ici? On regarde ensemble le texte. Comment les disciples, l'ensemble des disciples, appellent Jésus? Quand ils sont attristés par la parole, ils disent « Est-ce moi, Seigneur ?» Comment Judas, lui, va-t-il appeler Jésus? Il va dire « Est-ce moi, Maître ?» Le mot qui est utilisé ici, c'est « Rabbi ». Quelle est la différence entre les disciples et Judas ici? La grosse différence se trouve dans la façon dont Jésus est considéré aux yeux de Judas et aux yeux des disciples. Une petite question, peut-être vous pouvez répondre aussi dans le chat, mais ça sera un peu en décalé, mais c'est pas grave. Mais est-ce que Judas a fait des miracles comme les autres? Dans la salle, vous en pensez quoi? Est-ce que Judas a été faire des miracles aussi? On suppose que oui. Il y a rien qui nous dit le contraire. Il y a même un texte qui dit que tous revinrent vers Jésus et lui dirent « Même les démons nous sont soumis ». Judas faisait partie du lot. Est-ce que Judas était au contact de Jésus? Ça, on n'a aucun problème pour répondre oui. Est-ce que Judas n'avait pas la même approche que les autres disciples de Jésus? Bien sûr que si. Il vit la même chose que les autres. Il est au même contact que Jésus. Mais ici, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que lui, au lieu d'appeler Jésus son Seigneur, il le considère comme un maître. Il le considère comme un rabbi. Et la considération de Judas par rapport à Jésus va faire toute la différence. Et j'aimerais que vous reteniez une seule chose aujourd'hui. C'est qu'il nous est possible parfois de considérer Jésus uniquement et exclusivement comme un maître humain au lieu de le considérer comme un Seigneur. Je vais plus loin, dans ton service, dans mon service, on peut considérer Jésus comme un maître qui nous donne des conseils, qui est au même titre qu'un autre maître, mais pas le considérer comme le Seigneur de ma vie. Dans ma façon de réagir au quotidien, tu peux considérer que Jésus est celui qui va te donner des bons conseils, mais pas celui qui va diriger, conduire et te pousser dans tes réactions. Et la question que je veux qu'on retienne ensemble, Jésus est-il mon maître ou est-il mon Seigneur? Alors on va essayer de définir ensemble comment comprendre maître et seigneur et quelles sont les applications qu'on va tirer dans notre vie. Mais dès maintenant, pose-toi la question, dans ta vie, dans tes situations difficiles, dans les situations de non-pardon, dans les situations qui bloquent ta vie, dans les situations qui t'empêchent d'avancer, Jésus est-il ton maître ou ton seigneur? Le premier point que j'aimerais traiter avec vous est celui-ci. Considérer Jésus seulement comme un maître, c'est diminuer sa puissance et son autorité dans nos vies. Alors, allons faire un petit tour dans notre dictionnaire, essayons de comprendre ce que veut dire le mot maître ici dans ce texte-là. Le mot maître, je vous l'ai dit, vous souvenez, c'est le mot rabbi. Rabbi, c'est un grand monsieur, honorable. C'est un titre utilisé par les juifs en s'adressant à leurs enseignants. La définition du dictionnaire va préciser, c'est un érudit religieux versé dans le culte judaïque, également appelé rabbin. Il possède de grandes connaissances quant aux traditions, à l'organisation des cérémonies et à la théologie concernant les croyances juives. C'est donc celui qui est censé être quelqu'un qui guide, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui enseigne. C'est le rabbi. Mais à l'époque de Jésus, Jésus a un petit problème avec ceux qui se font appeler rabbi, ceux qui se font appeler maître, ceux qui se mettent au-dessus des autres, pour finalement être les dicteurs de conscience. Et le texte nous dit dans Matthieu 23, 2, les spécialistes de la loi et les pharisiens se font les interprètes de Moïse. Et on va au verset 7 et ils nous disent, ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés maîtres. Et ici, le mot qui est utilisé, c'est rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ et vous êtes tous frères. Vous allez me dire, mais attends, tu te contredis là, il y a le mot maître qui est utilisé à 3 reprises, dans quel sens, etc. C'est intéressant de voir que le mot maître au début, c'est-à-dire ne vous faites pas appeler par les hommes maître, c'est bien le mot rabbi. Mais le mot maître qui est utilisé un petit peu plus bas, et la traduction française ne donne pas cet effet-là, c'est le mot katagetes. Oui, je parle super bien grec, vous l'avez tous remarqué, voilà, j'ai fait du grec quand j'étais au collège il y a très longtemps. Et en fait, le mot katagetes veut dire simplement docteur enseignant. Jésus s'oppose au maître de l'époque, mais garde son identité de celui qui enseigne. En réalité, le problème n'est pas le mot enseigner ou diriger. Le problème, en réalité, c'est de considérer Jésus exclusivement comme un maître et pas comme un seigneur. Dans la Bible, il y a un ensemble de passages qui font référence à Jésus en tant que rabbi. Je vous les affiche, normalement ils vont s'afficher, il y a Marc 9:5, Marc 11:21, Marc 14:45, Jean 1:38, bref, il y en a plusieurs qui s'affichent, Jean 3:2, Jean 4:31, Jean 6:25, Jean 9:2, Jean 11:8. Vous aurez l'occasion de réécouter peut-être et d'aller chercher dans ces passages. Mais c'est intéressant de voir que dans chacun de ces passages où le mot maître est utilisé pour Jésus, on prend Jésus et on le ramène dans une situation humaine. C'est-à-dire qu'on prend Jésus et on essaye de le remettre dans une boîte qui est la nôtre. On prend un élément rassurant humain pour essayer de qualifier un événement divin. J'espère que vous me suivez. Pourquoi ? Et vous relirez chaque passage individuellement. Et vous vous rendrez compte que, à la fois, Jésus est sur le point d'accomplir quelque chose, où il va se passer quelque chose de miraculeux, et on va le rabaisser simplement à une notion de maître humain. Pourquoi ? Parce que dans notre façon de fonctionner, on considère Jésus, on a du mal à considérer Jésus autrement que dans notre conception à nous. Autrement, on prend Jésus, on le met dans une boîte et on dit voilà la boîte dans laquelle Jésus doit évoluer. Vous me suivez ? Et ça m'interpelle parce que je me dis bien souvent dans notre vie, on considère que oui, Jésus peut nous enseigner, Jésus peut nous diriger, Jésus peut nous donner des conseils, mais le fin mot de l'histoire, c'est quand même nous qui devons l'avoir. Vous suivez ? Ce qui est très intéressant dans ce qui se passe juste avant le moment qu'on a lu tout à l'heure, c'est que Jésus va nous parler de maître et seigneur. Tout à l'heure, on a parlé du moment où Jésus est avec Judas et les autres disciples, ok ? Eh bien, si on lit un petit peu au-dessus, dans Jean 13, verset 12, la Bible nous dit « Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison car je le suis. » Qu'on voit bien ensemble, il y a les deux ici. Hein. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux. Écoutez bien, pourvu que vous les mettiez en pratique. » Considérer ici Jésus comme un maître, c'est bien accepter qu'il puisse nous enseigner, mais que son enseignement ne va pas réellement impacter notre vie. Laissez-moi vous donner quelques exemples qu'on puisse comprendre ensemble. Et Dieu a vraiment poussé mon cœur sur cette réalité. Parfois, il y a dans nos vies des situations qui nous ont blessés, qui nous ont détruits parce que quelqu'un a dit des mots, quelqu'un nous a blessés. Et du coup, il y a dans notre vie comme un blocage qui nous empêche d'avancer. Ce blocage, pour moi, ça s'appelle la notion du pardon. Et on a plein de versets, on peut lire plein de choses sur le pardon, on peut lire plein de livres extraordinaires sur le pardon. Mais tant que tu ne laisses pas celui qui t'a complètement pardonné, qui t'a complètement libéré, agir dans ta vie pour que tu puisses pardonner, tu vas rester simplement à l'intellect et tu ne vas pas aller jusqu'au cœur. Quand tu considères Jésus exclusivement comme maître, tu entends ses enseignements, mais ça ne va pas plus loin dans ton cœur. Parce que c'est comme bloqué, parce qu'il y a comme une dimension qui bloque dans ta vie. C'est comme, souvent je discute avec les ados et avec les jeunes, et on dit, ok, il y a une grosse question, c'est le choix du conjoint. Ça, c'est la question essentielle. Si vous voulez passer du temps avec les jeunes et les ados, parlez de cette question, vous êtes sûr qu'ils vont venir. Le choix du conjoint. Et quand tu discutes avec certains, alors c'est super drôle, on veut bien que ce soit le choix de Dieu, ou en tout cas, que Dieu puisse nous encourager, etc. Mais on veut quand même que l'homme, il ait tel critère, qu'on puisse checker tous les critères, comme ça on sera sûr. C'est-à-dire qu'on donne presque des conseils à Dieu pour lui dire, je veux bien que tu me dises qui c'est, mais je voudrais quand même qu'il soit comme ça. Un jour, je vous raconte comme ça, on est entre nous, hein, mais bon, enfin, entre nous, tout est relatif dans la notion d'entre nous ici. Mais on était avec les ados et on a mis deux tableaux opposés. D'un côté, il y avait les filles et de l'autre côté, il y avait les gars. Okay? Et les filles, elles devaient noter... J'espère que les ados, vous regardez, mais on pense à vous, les cadeaux. Les filles, elles devaient noter tout ce qu'elles imaginaient que serait le gars idéal. Okay? Et puis, de l'autre côté, les gars devaient noter tout ce qu'ils imaginaient être la fille idéale. Franchement, c'était excellent. Mais excellent, les critères. Mais c'était mais vraiment à mourir de rire. Moi, du coup, je ne rentrais pas dans les critères parce qu'il fallait que le gars il soit grand, déjà. Instantanément, j'étais mis de côté. Quoi. Tu m'abusais quand même. Bon, bref, peu importe. Mais c'était intéressant de voir, d'ailleurs, que les filles avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères et que les gars étaient assez plus pragmatiques. C'est assez intéressant. Mais je vous invite à rencontrer les ados et pouvoir discuter avec eux à l'occasion. Toujours est-il qu'on vient quand même avec beaucoup de principes et beaucoup de raisonnements, n'est-ce pas ? Dans chaque situation. Je parle ici de choisir son conjoint, mais je parle de toutes les situations par lesquelles on est. On vient parce que... Et quand on vient, on s'approche de Jésus, on voudrait que Jésus nous donne des pistes toutes faites. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter que Jésus aussi nous accompagne dans le choix, voire nous montre clairement les réalités dans lesquelles on doit être ? Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, je suis prêt à ce que... dans ma vie, peu importe la situation, ce soit toi qui domine, qui dit le dernier mot. Je vous partage une expérience particulière où alors qu'on devait déménager d'un endroit à l'autre avec Lise et les enfants, on devait partir de Saint-Dizier pour aller à Besançon. Et c'était assez compliqué parce que, en gros, je partais d'un super poste en tant que prof en lycée. Je quittais une maison pas trop chère, bien installée. Je quittais une église dans laquelle j'étais à l'aise. Et je devais finalement aller dans un endroit où je ne connaissais pas. J'allais retourner, je passais d'un lycée à retourner à un collège ZEP, ou REP, ça dépend comment vous l'appelez. Les profs, vous me comprenez ici. Et je devais en fait presque perdre beaucoup de choses. Et plusieurs fois, alors qu'on priait avec Lise, on a dit, mais Seigneur, c'est toi qui auras le dernier mot. C'est toi qui nous diras si on doit aller là-bas. C'est toi qui seras le Seigneur de cette décision. Vous comprenez ? Humainement, j'aurais pu prendre les pour et les contre et dire, ben non, vaut mieux que je reste là où je suis. Mais il y a eu un moment où j'ai dû dire, Seigneur, c'est toi qui prends les rênes de ma vie, qui me dit, si je vais là-bas, j'y vais. C'est un énorme pas de foi. C'est dur. Mais si c'est Dieu qui est le Seigneur, il fera forcément quelque chose de bon pour vous parce qu'il sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Amen. Considérer Jésus simplement comme maître, exclusivement comme maître, c'est comprendre que nous avons besoin de l'aide, mais qu'on accepte qu'une partie de l'aide. Considérer Jésus comme maître, c'est abaisser Jésus au même rang qu'un conseiller ou qu'un bon enseignant. Laissez-moi vous donner un schéma. On va mettre une illustration ensemble et qu'on puisse comprendre ensemble ce que ça veut dire. C'est la première illustration. Si tu peux me l'afficher, Narek, et je remercie la technique qui fait un travail extraordinaire. On vous bénit, parce que franchement, si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là non plus. Regardez avec moi ce schéma. Si vous regardez ici, vous avez un peu les différents champs d'action de notre vie, la famille, l'argent, les amis, le travail, les loisirs, l'engagement. Et puis il y a Jésus. Et bien souvent dans notre vie, Jésus fait partie de l'ensemble des choses. Jésus est un aspect qui fait partie de l'ensemble de notre vie. Et je crois que quand on réfléchit dans cette vision-là, oui, là, à ce moment-là, Jésus est un maître parmi tant d'autres. Et j'aurais pu rajouter engagement, service, etc. Jésus fait partie de notre vie, mais il n'est pas notre vie. J'espère que je ne suis pas trop dur dans ce que je dis. Je veux vraiment vous le partager cœur à cœur parce que c'est quelque chose que je me pose comme question. Et même en tant que pasteur, RP, Anne ou Michel, on pourrait le dire aussi. On peut faire beaucoup de choses, mais ça fait toute la différence quand c'est Jésus qui impulse les choses, quand il pousse, quand il est seigneur de tout ce qu'on fait. Vous comprenez ? Je vous montrerai un autre graphique un peu plus tard. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre que quand on met Jésus à la même place que d'autres maîtres, quels qu'ils soient, on limite son action dans nos vies. On peut vivre une vie chrétienne classique, basique, où on peut vivre autre chose. Et Dieu nous encourage à vivre autre chose. J'aimerais non vous accuser, mais vous encourager à changer de perspective, de regard sur Jésus, de changer de considération. Jésus n'avait qu'une vision limitée de Jésus. Pardon, Judas n'avait qu'une vision limitée de Jésus. Est-ce qu'avec l'église de l'épi, est-ce que ce moment par lequel on est en train de passer de crise, où finalement tout s'arrête, où on ne comprend plus rien, ne doit pas nous amener ensemble à dire peut-être que Jésus n'est pas exactement à la bonne place dans ma vie ? Et je vous dis, je me mets vraiment au même point. Et quand on relit le texte, on voit que Judas a considéré Jésus comme maître, mais pas les autres disciples. Ce qu'il nous dit et ce qu'il nous encourage en nous disant qu'il y a possibilité de vivre les choses autrement. Alors, j'en arrive à ma deuxième partie. On a bien compris que dans ma première partie, c'était si tu considères Jésus exclusivement comme un maître, tu manques quelque chose. Voyons maintenant la deuxième partie. Redécouvrir Jésus comme Seigneur, c'est lui rendre la place qui lui revient. Redécouvrir Jésus comme Seigneur, c'est lui rendre la place qui lui revient. Même principe que tout à l'heure, on va prendre une définition. Le mot Seigneur qui est utilisé ici est celui de kurios. Permettez-moi de vous donner la définition. Celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision. Celui qui possède et dispose d'une chose. Dans un état, on va utiliser le mot curios pour souverain, prince, chef, empereur romain. Un titre d'honneur exprimant le respect, la révérence par lequel des serviteurs saluent leur maître. Le titre donné à Dieu, le Messie. Important, dans la Bible, on a deux termes qui se chevauchent. Le mot d'un côté despote et le mot curios. Despote, c'est appliqué seulement par un esclave et indique l'absolue propriété et un pouvoir sans contrôle. Tandis que curios, ça a un sens plus large. Ça s'applique au rang varié, aux relations de la vie et ne suggère ni propriété ni absolutisme. Comprenez bien que quand on parle de curios, c'est comme si on commence à dire à Dieu, je suis prêt, non pas à ce que tu m'écrases par une autorité mal placée, mais je suis prêt à ce que tu reprennes la place qui est la tienne, de conduire, diriger, pousser ma vie dans tous les aspects où tu veux m'emmener. Parfois, et je vous le dis, le mot despote est utilisé pour Dieu lorsqu'on parle de son autorité, lorsqu'on parle de sa puissance, dans l'Apocalypse en particulier. Le mot despote dans le sens, alors attention, le mot despote il est mal utilisé chez nous. Hein. Ici, il est dans le sens de la puissance et l'autorité de Dieu ici. Mais le mot curieux que j'aimerais développer avec vous ce matin, c'est le fait de dire « Seigneur, j'ai besoin ». Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'on commence tous nos phrases en disant « Seigneur, j'ai ». On dit toujours hein, dans nos prières « Seigneur ». D'ailleurs, c'est drôle parce que des fois, quand il y en a qui prient, ils disent « Seigneur » à la fin de chaque phrase comme si c'était un point. Ça me doit toujours faire rigoler, moi le premier. Hein, des fois. Et le mot qu'on utilise ici, c'est comprendre que « curieux », c'est une autorité bienveillante sur notre vie, une volonté de nous faire progresser et grandir parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Dieu ne cherche pas à nous écraser, Dieu ne cherche pas à faire de nous des gens complètement qui n'ont pas le droit de vie. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a une mauvaise image de Dieu. On pense que quand Dieu va intervenir dans notre vie, alors ça y est, on n'existe plus. Alors qu'en réalité, Dieu est là juste pour nous faire progresser. C'est bon la vie chrétienne avec Dieu. C'est bon la vie chrétienne avec Dieu en tant que Seigneur. Et je ne regrette pas les choix dans lesquels il m'a poussé à vivre tellement sa présence, son intimité, parce que c'est bon la vie avec Dieu. Je ne suis pas triste de vivre avec Dieu. Au contraire, quand Christ est le Seigneur de ma vie, ça change ma vie, ça change ma donne. Et il y a tellement de choses qui s'expliquent, ou pas, mais en tout cas en qui j'ai confiance. Le mot curios, on le trouve dans ce texte de Luc 2, 11. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Le Messie, le Seigneur. C'est ce cadeau extraordinaire de la venue de Jésus, parce que dans sa nature, il s'est rendu accessible à nous, il est venu nous chercher. C'est ce cadeau d'accepter que Seigneur, c'est prendre tout ce que Jésus a de bon et tout ce que Jésus veut nous apporter pour nous faire grandir, pour nous amener plus loin. Regardez ce que dit ce texte. Qu'est-ce que j'aime ce texte d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs et aux prisonniers la délivrance. Waouh ! Ça, c'est la mission d'un Seigneur sur ma vie. Et c'est la mission d'un Seigneur sur ta vie. Le terme Seigneur est plus qu'un terme générique. C'est une réalité pour tous ceux qui choisissent de le vivre. C'est une opportunité de marcher à la suite de celui qui a tout accompli pour que tu sois libre. Si on regarde à Judas, Judas s'est retrouvé enchaîné par sa considération de Jésus. Tandis que les autres disciples vont vivre quelque chose de plus. J'aimerais attirer votre attention sur un point. Ok, Judas a trahi, d'accord, Mais Pierre, il n'a pas trahi aussi? Et quand tout le monde s'est enfui, ils ont trahi aussi Jésus. Mais la différence, c'est que Judas, lui, s'est centré sur lui-même après. Et du coup, s'en est voulu, a eu des remords et du coup a été se pendre. Les disciples ont découvert que Jésus était malgré tout le Seigneur, même quand ils ont eu un échec, même quand ils se sont trompés. Et Dieu leur a donné l'opportunité de resservir, de servir à nouveau. Regardez, Pierre trahit Jésus droit dans les yeux. Mais il va quand même devenir l'apôtre Pierre, parce qu'il sait quelle est la place de Jésus. Le pardon qui libère Pierre ne peut venir exclusivement que d'un homme qui est Seigneur de nos vies, qui a la capacité de pardonner les péchés. Aucun homme ne peut pardonner les péchés si ce n'est celui qui est le Seigneur, celui qui a autorité sur le péché, celui qui a autorité sur nos vies. Parfois, on bloque dans des situations. Et j'aimerais vous encourager à dire, Jésus, je ne veux pas simplement que tu me donnes des bons conseils. Je ne veux pas simplement m'appuyer sur quelques principes, mais je veux que tu sois le Seigneur de ma vie, le Seigneur de mon service, le Seigneur de mon cœur, le Seigneur de chaque domaine, le Seigneur de mes pensées, le Seigneur de mes finances. Je peux le dire ça? Le Seigneur sur mes doutes, le Seigneur sur ma façon de servir, le Seigneur sur mon entreprise, le Seigneur sur mes relations avec les uns et les autres. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut oser dire, Seigneur, sois le Seigneur de mes relations? Sois celui qui est au-dessus quand l'autre m'a offensé, quand la colère prend le dessus. Viens reprendre ton rôle de Seigneur sur ma vie, afin que je diminue et que tu croises. Accepter la Seigneurie de Jésus sur notre vie, c'est comprendre que personne d'autre, à part lui, n'a de pouvoir sur notre vie, n'a une autorité sur notre vie. Regardez ce que dit le texte de 1 Corinthiens 8, 6. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, curieux, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Et ça, c'est une promesse, un encouragement de ce que Jésus vient nous rejoindre dans notre réalité. Il est notre Seigneur. Accepter Jésus comme Seigneur, c'est comprendre que chaque domaine de notre vie compte pour lui et que rien ne le limite. Accepter Jésus comme Seigneur, c'est accepter que parfois, on ne comprend pas les parcours de notre vie, mais lui les comprend. Et entre nous, dans la situation par laquelle on est en train de passer là aujourd'hui, on a peut-être un peu du mal à tout comprendre. Et si on pouvait considérer que lui comprend? Ça ne vous déchargerait pas? Ça ne nous déchargerait pas? Accepter Jésus comme Seigneur, c'est accepter que Jésus puisse se manifester dans le miraculeux et que parfois non. Parfois, Jésus guérit. Parfois non. Je sais que c'est dur ce que je dis, parce qu'on n'a pas envie. Mais accepter que Jésus soit Seigneur de notre vie nous amène à un pas de foi, à une confiance placée dans le seul capable d'être notre soutien. Parce que si Jésus ne guérit pas toujours dans nos situations, Jésus reste toujours celui qui est notre consolation, notre soutien, notre encouragement. Accepter Jésus comme Seigneur, c'est comprendre que sans lui, on n'est rien. Permettez-moi de vous mettre un deuxième graphique pour illustrer ce que je voudrais partager avec vous. Le premier, vous vous souvenez, Jésus faisait partie de l'ensemble des différentes sphères dans lesquelles nous vivons. Le deuxième est celui-ci. Vous avez Jésus au centre et c'est lui qui détermine tout le reste. Jésus n'est pas contre les amis, pas contre le travail, pas contre les loisirs, l'engagement et les finances. Et on pourrait en rajouter d'autres, on s'entend. Mais Jésus est celui qui détermine le reste. Jésus est celui qui impacte le reste. Jésus est celui qui est au centre de nos vies quand il est Seigneur et qui va déterminer le reste. Parfois, on met les choses dans le mauvais ordre, mais quand on choisit de dire « Jésus, soit le Seigneur de ma vie, soit le curieux de ma vie », alors on accepte qu'il puisse pousser nos vies dans nos retranchements et dire « Seigneur, dans chaque domaine de mon cœur, c'est toi maintenant qui décides. » Amen. J'aimerais inviter l'équipe de louanges à remonter. Et qu'on puisse considérer ensemble simplement cette notion. Jésus est-il ton maître ou le Seigneur de ta vie? Dans quel domaine de ta vie Jésus est simplement comme un rabbi, comme Judas le considérait, Et est-ce que ce n'est pas le temps? Est-ce que Jésus n'est pas en train de te dire, mais maintenant, est-ce que tu n'es pas prêt à me faire confiance pour que je sois le Seigneur de toute ta vie? Je sais qu'on ne comprend pas tout. Je sais qu'on n'a pas des mots, des explications sur tout ce qu'on vit. Mais ce que je sais, et ça j'en suis convaincu, c'est que quand tu dis « Sois le Seigneur de ma vie », Jésus prend le relais dans les domaines de ton cœur. Comment faire ça? Comment vivre ça? Un premier point, un premier aspect pour expérimenter Jésus comme Seigneur et non plus comme Maître. Le premier aspect, c'est de renoncer et de dire « Seigneur, il y a des aspects dans ma vie où tu n'es qu'un Maître, tu n'es pas le Seigneur. » Premier point, renoncer. Deuxième point, faire un pas de foi et de dire « Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais te laisser être le Seigneur de ma vie, le Seigneur de ce domaine, le Seigneur de mes finances, le Seigneur de mes doutes, le Seigneur... Quand je vais te laisser, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je fais le pas de foi de m'engager devant toi et de dire « Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. » Troisième aspect, c'est du quotidien. Ça ne se gagne pas un instant comme ça. C'est plus tu vas être au contact, plus tu vas passer, comme on chantait tout à l'heure, « Sonde-moi, oh Dieu », plus tu vas laisser Dieu dire « Tiens là, il y a des aspects sur ta vie où je voudrais vraiment travailler. » Il y a un texte qui m'interpelle, qui se trouve dans 1 Corinthiens 12:2, qui nous dit « Personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'y est pas conduit par l'Esprit-Saint. » Et ça m'interpelle en me disant « Mais Seigneur, est-ce que ce matin... dans ce domaine, ce pourquoi je suis venu au culte, ce pourquoi je suis venu là pour écouter le culte, ce sujet qui est tellement difficile pour moi. J'ai besoin que le Saint-Esprit vienne comme travailler mon cœur, consoler ma vie et dire, je veux que Jésus soit mon Seigneur. Qu'est-ce que tu gardes pour toi aujourd'hui qui te maintient finalement et qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu? C'est pas un instant T, c'est pas comme ça où on dit ça y est, c'est bon, tout est réglé. C'est comme un pas de foi où on commence, on dit Seigneur, je comprends pas, mais j'y vais, je fais quand même le pas. Et toi, tu fais le reste. C'est exactement ça. Il y a un chant qu'on va prendre ensemble qui nous dit Majesté. Et ce chant nous invite à dire Me voici. Je m'approche de toi. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Peut-être c'est le temps ce matin, tu te dis, tu es devant ton écran, je t'invite vraiment juste à peut-être couper tous les bruits qu'il y a autour et dire, me voici maintenant. Je veux que ta majesté domine ma vie, mes relations, ma façon de parler, mes pensées, mon cœur. Je veux que ta majesté ait le dessus sur tout. Change mon cœur. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a la grâce de Dieu qui vient, qui est encore là, qui est encore disponible. C'est pas une accusation, c'est un encouragement à aller plus loin. C'est pas une destruction, c'est une construction pour le royaume de Dieu. Je veux vraiment t'encourager. Est-ce que tu es prêt à dire « Me voici, ébloui devant ta majesté, saisi par ta présence. » On va prendre ce chant, mais je te prie, je veux vraiment t'encourager pour que tu le prennes pas juste comme un chant parmi tant d'autres, mais que ce soit un choix de ta part de dire « Majesté, prends ta place dans mon cœur. » Alléluia. Deux éléments essentiels qui reviennent, l'amour et la grâce de Jésus. Quand tu considères Jésus comme ton Seigneur, il te remplit de son amour et de sa grâce. sa grâce vient te chercher. Son amour se manifeste. Et il y a une réalité qu'on peut vivre. C'est que quand le Seigneur Jésus trône au milieu de nos vies, au milieu de nos louanges, au milieu de notre service, il y a autre chose qui se passe. Dans le projet sur lequel tu es en train de travailler, laisse-le être le Seigneur. Tu vas voir comment il va accompagner les événements. Dans tes décisions, dans les choix que tu vas prendre, laisse-le être le Seigneur. Tu vas voir comment il va agir. Peut-être dans tes inquiétudes, laisse-le être ton Seigneur. Tu vas voir comment il va te parler. L'amour de Jésus, c'est celle-ci qui fait qu'aujourd'hui tu as accès. Que tu as accès au trône de la grâce, tu as accès auprès du Père. Et je veux vraiment t'encourager. J'aimerais terminer ce moment en priant. Et qu'on puisse ensemble vraiment dire, Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, je te remercie pour ce qu'on est en train de vivre. Je te remercie pour l'église de l'Épi, mais aussi pour tous les visiteurs, tous ceux qui nous regardent. Seigneur, que ce soit à l'église, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, je te prie que chacun d'entre nous, nous puissions prendre la décision que tu sois le Seigneur de chaque domaine de nos vies. Je te prie pour tous ceux qui sont en lutte avec des pensées particulières où c'est compliqué, ça ne s'arrête pas, ça vient. Et chaque fois, ils sont comme assaillis par l'ennemi. Je te prie que ce matin, ils puissent prendre une décision spirituelle de dire, Seigneur, sois le Seigneur de mes pensées. Je te prie pour tous ceux qui sont des luttes avec des blessures du passé. Je te prie pour tous ces gens qui sont comme qui ont reçu des coups de couteau sur leur vie, afin qu'ils puissent saisir que c'est toi qui as tout pouvoir de guérison, de restructuration et d'encouragement. Et que c'est pas en essayant de se faire justice soi-même qu'on arrivera à trouver une solution, mais c'est toi qui feras la différence. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont découragés, afin qu'ils puissent mettre sur leur découragement le nom puissant de Jésus-Christ et sa Seigneurie, et redécouvrir l'encouragement en Jésus. Je te prie pour tous ceux qui sont abattus, afin qu'ils trouvent en toi des ressources qu'ils n'auront jamais trouvées ailleurs. Seigneur, nous savons que tu es Dieu, que tout pouvoir t'a été donné sur la terre et comme au ciel. Jésus, nous savons que tu as toute autorité, qu'il n'y a personne comme toi. Et encore ce matin, avec tellement de joie, on veut te dire merci de ce que tu es le Seigneur de nos vies. Merci de ce que tu es la majesté de nos vies. Merci de ce que tu nous offres l'opportunité de te mettre à la première place. Merci parce que tu es un Dieu accessible. Tu es un Dieu vivant et vrai. Merci parce que la mort à la croix nous donne un accès auprès du Père. Ta résurrection a vaincu la mort. Seigneur, merci parce que rien n'a pu te retenir. Alors, encore ce matin, ensemble, on te remercie d'être le Seigneur de nos vies. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la force, la sagesse. Merci parce que tu es tout pour nous. Bénis chaque personne qui est là derrière son écran. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Je crois que ce matin, il y a comme des jalons spirituels qui ont été posés. Et alors que vous allez reprendre la semaine, peut-être vous allez dire, ok, c'est facile le dimanche, mais il y a lundi. Eh bien, dès demain, alors que tu te lèves le matin, prends cette disposition de cœur de dire, Seigneur, tu seras le Seigneur de cette journée. C'est toi qui vas conduire cette journée. Et chaque jour, chaque matin, quand tu te lèves, Seigneur, sois le Seigneur de cette journée. Jésus, sois le Seigneur de cette journée. J'aimerais juste conclure en vous donnant quelques devoirs. J'espère que vous pouvez prendre un petit papier, un crayon et vous donner un peu de boulot. Excusez-moi le côté prof qui ressort. Je fais ce que je peux. Il y a deux textes que j'aimerais que vous puissiez étudier. Il y a Luc 5, 1 et 11 et Jean 1, 45 à 50. Ça s'affiche. Dans Luc 5, 1 et 11, je voudrais que vous examiniez comment Pierre considère Jésus avant le miracle et comment il le considère après et comment ça va déterminer son appel. Ok ? Luc 5, 1 à 11. Retenez bien ça. Le deuxième texte, Jean 1, 45 à 50. J'aimerais que vous puissiez considérer la relation entre Jésus et Nathanaël. Et que vous puissiez voir quel mot Nathanaël va ajouter au mot rabbi, qui va amener à ce que Jésus le considère très particulièrement. Je vous invite vraiment, Luc 5, 1 à 11, Jean 1, 45 à 50. Deux textes qui vont aller dans le sens de ce que j'ai partagé. Un peu de devoir pour cette semaine. Vraiment, je pense que ça peut nous faire du bien à tous. Et voilà. Donc, Je conclue vraiment pour de vrai, ma cinquième conclusion. Retiens une chose de ce message. Jésus est-il mon maître ou mon Seigneur? Ou est-ce qu'il est peut-être, s'il a besoin, de reprendre la place qui est la bonne? Avec l'ensemble de l'équipe pastorale de l'EPI et le conseil d'anciens, le conseil d'administration, on vous souhaite vraiment un bon dimanche. On sait que les défis sont là pour chacun d'entre nous. Mais ce matin, je crois qu'on s'est fait du bien dans la présence de Dieu. En tout cas, moi, c'était mon cas. Alors, et je sais que c'est le vôtre aussi. Alors, je veux vraiment vous encourager. Passez une bonne semaine. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on partage, n'hésitez pas. Anne vous a donné le numéro. Appelez-nous, on prendra du temps pour prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Merci d'être avec nous chaque dimanche. Merci d'être là avec l'EPI. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, à dimanche prochain. N'oubliez pas la réunion de prière jeudi soir. Ciao, ciao.